de l'émotion à la réflexion. Comme elle est belle, la liturgie de l'Église dans son souci pédagogique avec chacune et chacun d'entre nous. Émotion de la naissance d'un tout petit et réflexion sur la conséquence de cette naissance, ce qu'elle induit. Beaucoup parmi vous, parce que vous êtes parents, grands-parents, vous avez vécu cette magnifique expérience, l'émerveillement, l'admiration devant cette vulnérabilité qui vous est confiée. Et puis, après, c'est mesurer toutes les conséquences sur la vie de couple et sur la vie de famille. Eh bien, il en va de même ce matin avec les textes de la liturgie. De fait, Noël est vraiment, pour la foi, un mystère. En effet, reconnaître le Fils de Dieu dans un homme, Jésus, dont tout le monde souligne la force spirituelle, l'intelligence, la sagesse, la bonté, c'est déjà un acte de foi. Mais reconnaître, comme nous le faisons ce matin, ce même Fils de Dieu dans un nouveau-né, totalement dépendant, vulnérable, c'est accepter le plus profond des abaissements de la part du Créateur, de celui que nous disons le Très-Haut. Et à ce sujet, saint Augustin écrira : nous appelons Noël ce jour où le Verbe de Dieu vagit sans pouvoir encore parler. Eh bien, c'est pour cela, tel un contrepoint, que vous avez pu le remarquer, la liturgie de la messe du jour de Noël donne des textes éclatants de divinité. Aussi bien avec le prophète Isaïe qu'avec cet admirable extrait de la lettre aux Hébreux que l'on trouve du reste sur le fronton de la basilique de l'Annonciation à Nazareth, comme une introduction à la visite que nous pouvons faire dans cette basilique, à la visite que Dieu fait à notre vie. Et puis bien sûr, il y a l'évangile que le Père Charles vient de proclamer. Le fameux prologue de saint Jean. Les quelques versets par lesquels Jean commence son évangile sont parmi les plus célèbres dans le monde, au-delà même de la tradition chrétienne. Et si nous essayons de comprendre pourquoi le prologue de saint Jean tient une telle place dans l'inconscient collectif des baptisés, force est de constater que ces quelques versets sont comme un merveilleux résumé de toute l'œuvre entreprise par Dieu pour sauver l'humanité. Dans ce poème théologique, nous avons une hymne à la lumière et donc une hymne à la joie. Par ailleurs, nous l'avons remarqué, le prologue commence par l'affirmation solennelle de la divinité de Jésus. Il est la parole même de Dieu. Or, nous le savons dans la Bible, c'est par sa parole que Dieu a créé le monde. Dieu dit, et cela fut. Par lui, tout s'est fait à l'heure de la création. Et Jean souligne, puisque tout était ténèbres, que les ténèbres n'ont pas arrêté la lumière créatrice. Une parole efficiente. Et du reste, frères et sœurs, c'est ce que nous vivons à chaque célébration d'un sacrement. Efficience d'une parole. Je te baptise et le baptême est. Je te pardonne tous tes péchés et nous nous relevons sauvés. Ceci est mon corps livré pour vous et le Christ est présent réellement. Mais dans le récit, voici soudain que cette force divine semble devenir momentanément impuissante. Le Verbe était la vraie lumière, il était dans le monde, lui par qui le monde s'est fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Par ces quelques mots est affirmé le mystère de l'incarnation. La parole de Dieu, la parole créatrice, est venue habiter parmi les hommes, mais comme les ténèbres se sont opposées à elle, le monde n'a pas reçu la lumière. Ce qui veut dire qu'aussitôt est affirmé le mystère de l'incarnation, voici qu'est dévoilée presque concomitamment la force de la liberté humaine capable de s'opposer à la venue de la lumière. En effet, nous l'avons tous, hélas, expérimenté. Une liberté mal orientée, mal exercée, peut être une source de rupture, comme on appuie sur un interrupteur et la lumière n'est plus. Avec pour origine celui que les Écritures dans le livre de Job appellent le prince des ténèbres. Le péché, oui, est obstacle à la lumière, obstacle à Dieu. Et comprenons bien que c'est un obstacle que Dieu lui-même ne peut surmonter si l'homme n'y consent. Or, ce qui est affirmé ici, c'est une formidable bonne nouvelle, et ce sont les mots d'Isaïe que nous avons encore à l'oreille et dans le cœur. Dans ce texte de Jean, la lumière est synonyme de liberté. Il s'agit en effet de la grâce de traverser nos nuits et d'accéder, dès la condition précaire de notre existence terrestre, à la vie même de Dieu. C'est ce que nous célébrons précisément ensemble dans la joie ce matin avec cette Eucharistie. Oui, le mystère de Noël est à cette profondeur. Le Verbe, cette parole créatrice, clarté de Dieu en ce monde, semence de vie, prend aujourd'hui le visage d'un Fils d'homme au milieu de nous. Ce qui signifie, frères et sœurs, que nous ne pouvons travailler avec persévérance à l'avènement du vrai visage de l'homme en nous et dans ceux que nous côtoyons, sans croire à ce Dieu nouveau-né par qui nous redevenons des enfants et des frères promis avec lui à la vie éternelle. Et cette fraternité ne peut exister sans solidarité. Elle est là aussi la joie de Noël. Alors oui, nous passons de l'émotion à la réflexion, et la réflexion nous reconduit à l'émotion. Car en fait, il suffit d'un berceau, il suffit d'une crèche pour briser la fatalité, le chaos, les ténèbres et la mort. En effet, comme l'écrivait magnifiquement le père Michel Evdokimov, la beauté du visage de cet enfant répandait devant les hommes comme un appel à refléter soi-même quelque chose de la beauté céleste. Nous sommes invités, frères et sœurs, et c'est notre vocation baptismale, à refléter quelque chose de la beauté céleste.